Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble et sur Europe 1 jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix, je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ondine avec qui je vais passer cette semaine d'avant-fête.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, votre vécu nous intéresse. Il nous arrive tous d'être un peu soucieux, angoissés. Pour certains, ce n'est pas juste un état passager, car ils sont atteints d'un trouble de l'anxiété généralisée. Ce trouble a diverses formes. Il peut faire apparaître des phobies comme la phobie sociale ou scolaire, provoquer des vomissements, une dépression, des insomnies et même des crises de panique. Cette anxiété généralisée est souvent incontrôlable et envahissante. Mais comment la prendre en charge pour l'apprivoiser, cette anxiété? Quel est le quotidien des personnes anxieuses et que font-elles pour la vaincre? L'anxiété, comment la vaincre? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages et nous sommes là pour vous écouter.
On a le plaisir de vous écouter au 39-21. Vous le savez, le standard d'Europe 1 est ouvert. 39-21, 50 centimes la minute. Pour vous lire, Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Bertie, notre première auditrice sur le 39-21. Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Ça va? Vous nous appelez d'où et quel âge avez-vous, Bertie?
Alors, j'ai 18 ans et je vous appelle de Boulogne-sur-Mer.
D'accord, dans les Hauts-de-France. Donc,
voilà, oui.
Bon, il fait beau là-bas?
Ça va, là. Ça il y a eu du soleil ce matin.
D'accord, je connais très bien Boulogne.
C'est... Ah oui?
Ouais. J'y suis allé enregistrer deux albums au studio du Bras d'Or. Hein. J'en profite pour les saluer. Et c'est une région bien agréable, en tout cas, où les gens sont bien sympathiques. Bertie, vous avez commencé à devenir très anxieuse lorsque vous avez changé de lycée en classe de première. Voilà. Que ressentiez-vous à ce moment-là?
Alors en fait, pendant les deux premiers mois de vacances, j'ai commencé à être malade, sans aucune raison. Et lorsqu'on a fait des examens et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, on a commencé à se poser des questions, voir si c'était un peu plus psychique, enfin si c'était peut-être psychologique,
oui.
Vu que j'avais un changement d'école et que j'étais stressée de base.
Mmh.
Donc en fait, quand on m'a dit ça, on m'a dit juste, voilà, t'es stressée et ça va aller, c'est pas grave, ça va passer, quand tu auras la rentrée, ça passera. Et c'est pas passé, malheureusement.
Et est-ce que cette anxiété, elle s'accompagnait de la présence de personnes qui vous dérangeaient, de regards?
C'était surtout quand j'étais entourée de gens. Quand j'étais pas chez moi, je me sentais vraiment pas en sécurité, je me sentais un peu attaquée en fait.
D'accord. Il n'y avait que chez vous que vous vous sentiez en sécurité finalement.
Voilà, quand j'avais pas des crises. Quand j'avais des crises, je me sentais en sécurité nulle part.
D'accord. Et en fait, vous évoquez le lycée, mais est-ce que dans la rue, tout simplement, dès que vous deviez aller, je ne sais pas moi, faire une course, est-ce que cette anxiété vous prenait aussi?
Alors oui, au départ, non, pas du tout. Et puis arrivé aux deux semaines après le lycée, après le début du lycée, ça a commencé vraiment à se généraliser. Mmh. Donc je ne pouvais plus rien faire en fait à un moment donné.
Et ces troubles d'anxiété, en fait, hein,
oui.
C'est ça. Vous les aviez déjà eu avant ou c'est vraiment là, à cette rentrée, qu'ils vous ont pris de manière assez violente?
Alors, j'avais déjà des crises d'angoisse, mais c'était vraiment un peu... Enfin, c'était secret. En gros, je les avais le soir et c'était quand je pensais un peu trop au lycée, quand j'étais... Enfin, l'année d'avant, en fait.
Mm-hmm.
L'année d'avant, ça avait déjà été compliqué un peu pour moi, mais c'était... voilà, j'en avais pas parlé et puis ça se passait. Donc, j'en avais... Enfin, c'était vraiment très secret.
C'était toujours lié au lycée, hein, finalement?
Oui.
Uh-huh.
À tout ce qu'il pouvait y avoir au lycée, en fait. Les notes, ce que je faisais mal, ce que je faisais pas bien. Par exemple, l'idée de me ridiculiser à l'école, ça me faisait très peur. Et donc, j'y pensais et ça me retournait l'esprit à chaque fois. Et donc, j'étais très mal à ce moment-là. Oui.
Est-ce que vous avez vécu un événement, en fait, qui a pu déclencher cette anxiété-là? Parce que vous évoquez... j'avais peur de me retrouver dans une situation de honte, comme ça, comme si voilà, j'étais pointé du doigt par tout le monde. Est-ce que ça vous était déjà arrivé?
Ça m'est déjà arrivé. Après, c'était pas non plus hyper traumatisant, mais c'était, c'était moins traumatisant quand ça m'arrivait, mais c'était plus la peur de l'être, en fait.
D'accord. Alors, face à cette anxiété, est-ce que vous avez pris des décisions? Est-ce que vous avez commencé une thérapie?
Bien sûr, oui. Au départ, on a commencé par me donner des compléments alimentaires.
Oui.
Tout ce qui était compléments alimentaires, fleurs de Bac et compagnie. On a vu que ça ne marchait pas. Du coup, déjà, on m'a orientée vers une psychologue qui m'a beaucoup aidée, mais en attendant, enfin, qui m'aidait sur le coup, mais sur le long terme, ça ne m'aidait pas du tout. Du coup, on a commencé à mettre en place des anxiolytiques et des antidépresseurs.
Oui.
Et non, enfin, ça a fait effet. Enfin, je suis toujours actuellement sous antidépresseurs. Ça a fait effet pendant un moment. Mais c'est toujours très compliqué, oui.
Vous arrivez à comprendre d'où cela peut venir, là, aujourd'hui, en ayant essayé d'abord une thérapie douce, et puis ensuite les anxiolytiques, les médicaments qu'on vous a prescrits. Est-ce que vous comprenez d'où ça vient aujourd'hui, tout ça?
Oui, je comprends maintenant, je comprends un peu mieux. J'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment beaucoup dans le secret, beaucoup repliée. Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, je n'en parlais pas. J'étais toujours très renfermée sur moi, donc je pense que ça n'a pas du tout aidé.
Mmh. Vous en avez parlé avec vos parents, vos amis?
J'en ai, au départ, non, pas du tout. Enfin, au départ, personne vraiment comprenait ce qui se passait. Je n'avais pas dit à mes amis que ça n'allait pas à ce point. Donc au départ, non. Après, mes parents, ils le voyaient, en fait. Ils le voyaient tout le temps. Ils voyaient que ça n'allait pas. Ils voyaient que j'étais malade. Ils ne comprenaient pas non plus ce qui se passait. Donc finalement, la psy et moi, on a pu en discuter tous ensemble. Oui.
Mmh. Vous dites que cette anxiété vous empêche d'avoir les ambitions que vous aviez avant. Pourquoi vous dites ça?
Parce que... Comment dire Avant, je voulais faire beaucoup de choses et beaucoup d'expériences de vie qui avaient l'air extrêmes et qui sur le coup, me plaisaient énormément.
Oui.
Alors que maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis que c'est plus possible. Enfin, c'est impossible que je puisse tenir dans mes ambitions. Sur le long terme, je ne peux pas tenir. Je ne pourrais pas psychologiquement tenir, oui.
Vous êtes donc résignée aujourd'hui?
Oui, un petit peu.
Et vous vous sentez comment aujourd'hui?
En ce moment, ça va bien.
Bon.
J'ai eu trois mois un peu compliqués, mais maintenant, en ce moment, j'arrive à refaire des choses que je ne faisais pas cette dernière année.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Bertil, pour votre témoignage au 3921. Je vous souhaite bon courage. Et puis, si vous, en ce moment, ça va bien, essayez de tenir cette corde-là et de ne pas la lâcher. Dans quelques instants, nous serons avec Audrey. Elle a commencé à développer des symptômes d'anxiété lorsqu'elle a dû passer un concours.
Europe 1. On parle de l'anxiété, ces angoisses souvent irraisonnées, incontrôlables, qui peuvent vous gâcher la vie. Venez nous dire pourquoi votre anxiété vous paralyse. Votre histoire au 3921, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes anxieux, tous les jours il vous est impossible de justifier votre état par un motif de stress. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler.
Et nous sommes en ligne avec Audrey. Bonjour Audrey, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous?
Alors, j'ai 25 ans.
Vous avez 25 ans. Alors, Audrey, votre anxiété a commencé à se généraliser lorsque vous avez dû passer les concours pour devenir enseignante. Vous êtes de nature stressée à vouloir tout bien faire?
Oui, exactement. Je suis plutôt de nature stressée, un peu perfectionniste. Oui.
Et donc, qu'est-ce que ce concours a réveillé chez vous?
Disons que je l'avais raté déjà une première fois.
Oui.
Donc sûrement ça a élevé mon anxiété, mon angoisse. C'était l'oral que j'avais justement raté. Et là, je m'apprêtais à repasser l'oral à Paris.
Oui.
Eh bien, ça n'allait pas. Enfin, vraiment, j'étais plus moi-même. Je n'arrivais pas à faire face à mon organisation quotidienne. J'arrivais pas aux échéances, etc. Enfin, j'étais vraiment très stressée, plus que d'habitude.
Et donc, du coup, vous l'avez passé, ce concours?
Oui.
Et ça s'est passé comment?
Eh bien, plusieurs semaines sont passées. C'était un mois avant l'oral, donc j'en ai parlé à mon médecin. J'ai suivi des séances d'hypnose et aussi d'acupuncture. Donc j'ai essayé de relativiser. C'est passé progressivement, en fait. vu que je continuais quand même à réviser, aller en cours pour travailler ce concours, ça m'a apaisée, on va dire, et j'ai pu aller à l'oral dans des bonnes conditions, et donc j'ai obtenu ce concours, j'ai réussi.
Bon, alors, vous l'avez obtenu, mais depuis, cette anxiété, elle ne vous a plus quitté, si j'ai bien compris. Est-ce que vous prenez un traitement pour ça? Est-ce que vous avez...
Oui.
Alors, c'est quoi ce traitement?
Alors, un antidépresseur qui traite aussi l'anxiété généralisée. Voilà, donc antidépresseur, puisque certaines traitent ce trouble, en fait.
Mmh. Et ça vous aide à gérer votre anxiété face à vos élèves aujourd'hui?
Oui, tout à fait. J'ai eu une période, c'était au mois d'octobre, assez compliquée, puisque j'ai été mutée, je suis arrivée dans une nouvelle région, j'ai eu des nouveaux niveaux d'élèves, de classe en charge, et c'est vrai que j'ai, je sais pas, une pression, ça m'a amenée à une période de stress assez importante, et j'ai dû recommencer à prendre mon traitement.
Et est-ce qu'il y avait un terrain anxieux déjà dans votre famille, et puis vous aussi, est-ce que vous étiez une personne anxieuse de manière générale avant ces échéances-là, ces concours?
Alors, j'ai toujours été un petit peu stressée dans ma famille. Ma mère est un peu comme ça. On aime bien que les choses soient faites. On n'est pas insouciant, voilà. Mais rien de problématique. Plein de gens sont comme ça. Enfin, voilà, c'est nature. Mmh. Après, j'ai un père qui... mon père, oui, il a des troubles bipolaires.
Ouais.
Mais ça ne se manifeste pas du tout comme ça. C'est encore autre chose. Mais bon, déjà, il y a... ça, hein. Et voilà, oui, j'ai grandi dans un climat affectueux, etc., mais un peu stressant, stressé, c'est vrai que, voilà.
Vous êtes entouré de personnes qui sont assez anxieuses, finalement.
Un peu anxieuses, oui, au final, c'est vrai.
Je sais que vous faites beaucoup de sport, le travail et le sport, c'est ce qui vous permet d'affronter, de vaincre votre anxiété?
Tout à fait. Après, il faut aussi distinguer, parce qu'il y a il y a des phases, en fait. Il y a des phases où, par exemple aujourd'hui, où ça va très bien, mais je continue à faire du sport et mon travail m'aide, etc.
Mmh.
Puis des phases où vraiment l'anxiété va devenir un handicap. Où vraiment, par exemple, aller faire ses courses ou aller au travail, c'est vraiment problématique. On se questionne même à se mettre en arrêt. Et là, dans ces phases, là aussi, il faut continuer. C'est dur, mais il faut vraiment se forcer à tenir ses... à faire les petites choses du quotidien. Et là, particulièrement le sport, même si on n'a pas du tout envie, hein, c'est dans ces périodes, il faut. Mm-hmm. Je pense que c'est bon. Essentiel.
En tout cas, je sens que ça vous a aidé à progresser, en tout cas à dompter légèrement votre anxiété, là.
Il y a plusieurs facteurs qui permettent d'aider à... Oui, il y a un problème de fond, en fait, c'est la gestion des émotions et de l'anxiété.
Mm-hmm.
Et le sport, bien sûr, ça y contribue à mieux le gérer, à évacuer. Oui.
Merci en tout cas Audrey pour votre témoignage au 39-21 et souhaitons que vous allez continuer à évacuer de plus en plus grâce au sport. De toute façon, j'ai l'impression que le sport aide dans tous ces cas d'anxiété en général à évacuer beaucoup et à s'améliorer. Dans quelques instants, nous allons accueillir Jean-Luc Duché. Il est psychiatre et auteur de l'ouvrage « Vaincre son anxiété par soi-même » et ça sera dans quelques instants.
Et il y a Catherine qui nous écrit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 à cette question, comment vaincre l'anxiété? Peut-être en connaître la source, nous dit Catherine, savoir ce qui a déclenché ce sentiment d'insécurité. L'anxiété, c'est une peur de quelque chose qui n'existe pas. Irritabilité, trouble du sommeil, difficulté de concentration, crise de panique, vous êtes habité par une angoisse perpétuelle qui vous empêche de vivre sereinement, vous témoignez, vous nous racontez votre histoire, on vous attend au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Jean-Luc Duché, il est psychiatre et auteur de l'ouvrage « Vaincre son anxiété par soi-même ». Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Ma première question va directement sur cette anxiété. Comment distinguer ce que l'on appelle l'anxiété, que l'on peut tous ressentir d'ailleurs, hein, d'un trouble de l'anxiété généralisée?
Alors, effectivement, tout le monde peut être un jour ou l'autre anxieux, et on l'est tous. Le problème de ce qu'on appelle un trouble d'anxiété généralisée, c'est quelqu'un qui se fait du souci de manière excessive et de manière répétée. Si on est face à une situation qui nous angoisse particulière, on va être anxieux, c'est logique. Mais celui qui a ce qu'on appelle un TAG, C'est quelqu'un qui, de manière répétée, va toujours dramatiser, imaginer des choses catastrophiques, des scénarios catastrophes.
Le pire.
Le pire. Mmh. Et donc, voilà, son conjoint est en retard. Tout de suite, il lui est arrivé un accident et non pas le conjoint a rencontré quelqu'un, un ami ou quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, on est tout de suite dans l'hypothèse la pire.
Ouais. Et c'est cette anxiété généralisée, peut-être, elle est déclenchée à chaque fois par ce type d'événement que vous soulignez, par exemple un retard, en tout cas une petite chose de la journée qui se passe et qui, d'un seul coup, se transforme en un truc énorme.
Oui, c'est ça. Il y a toujours un événement, mais l'événement n'est pas forcément grave.
Ouais.
Et c'est le manque d'informations, donc le doute, est-ce qu'il ne serait pas arrivé quelque chose? Et alors tout de suite, on imagine le scénario catastrophe.
Mmh. Est-ce que l'anxiété se transmet? Est-ce qu'elle a un côté héréditaire?
Alors, il y a certainement un côté héréditaire, de manière génétique.
Oui.
Mais il y a un côté héréditaire éducationnel, j'allais dire, qui est beaucoup plus important à mon idée. C'est-à-dire que si on a des parents anxieux, c'est vrai qu'on aura tendance à redévelopper le même comportement.
Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a des traitements qui existent aujourd'hui contre cette anxiété?
Alors, il y a des traitements médicamenteux. Mmh. Je crois que l'une des personnes qui est passée avant vous a parlé de traitement antidépresseur.
Oui, elle m'a parlé de fleur de Bach, mais ensuite, la fleur de Bach qui est un traitement à base de plantes, je crois, mais ensuite d'antidépresseur ou d'anxiolytique.
Alors voilà, l'anxiolytique va avoir plutôt un effet sur de lâcher prise, sur les sensations corporelles. Et par contre, les antidépresseurs auront plus un effet sur le psychisme, les angoisses, j'allais dire, la dimension psychique de l'angoisse.
Mmh.
Mais le problème, c'est qu'un antidépresseur, on peut le prendre à long terme. Un anxiolytique, on conseille de ne pas dépasser 2 à 3 mois.
Mmh. La thérapie est-elle le meilleur traitement contre cette anxiété?
Alors, je crois que c'est sans aucun doute.
Mmh.
Parce que, si vous voulez, le médicament va changer les choses, mais ne va pas changer ce qu'on est et ce qu'on se dit.
Parce que cette anxiété est un trouble psychologique, finalement.
Alors, si on se base sur des thérapies cognitives, le problème, c'est que quelque part, on a sans arrêt des cognitions, c'est-à-dire des pensées automatiques.
Ouais.
Et face à un événement, eh bien, on est toujours dans l'interprétation de ce qui se passe.
Mmh.
Et l'anxieux va être quelqu'un qui va interpréter, sélectionner toujours la solution la pire.
Mmh.
Donc, ce qu'on va lui apprendre en thérapie cognitive, c'est peut-être à essayer d'imaginer d'autres hypothèses. Et dès le moment où j'ai d'autres hypothèses, je diminue la certitude que j'avais de ma première hypothèse. Donc il y a toute une habitude à prendre.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, effectivement, en général, les gens améliorent leur fonctionnement. C'est vraiment un problème d'habitude et de fonctionnement.
Ouais. Dans l'ouvrage que vous avez écrit qui s'appelle « Vaincre son anxiété par soi-même », vous donnez ce type de conseil?
Tout à fait.
Mmh.
Et il y a aussi quelque chose qui est tout simple et très efficace, c'est la respiration abdominale. Donc apprendre à bien respirer par le ventre. Ça,
ouais.
Jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant respire par le ventre. Et après, on a perdu cette habitude et cela, en général, ne fait qu'aggraver notre anxiété.
Mmh.
Une autre technique qui est relativement efficace, c'est aussi lorsqu'on commence à réfléchir sur quelque chose qu'on sait qui va nous ennuyer, c'est de se dire ce qu'on appelle la technique d'arrêt de la pensée. C'est-à-dire qu'on se dit stop, on essaye d'éviter de commencer à réfléchir.
Mmh.
Et lorsqu'on commence à réfléchir à quelque chose qui... Donc on va imaginer à ce moment-là les solutions les pires, les scénarios les pires, et bien à ce moment-là, ça va être très compliqué d'arrêter d'y penser.
Mmh.
Donc il vaut mieux dès que ça commence.
Mmh. Est-ce que les Français sont-ils plus anxieux qu'avant?
Je ne sais pas répondre à cette question. Parce que je
elle
crois
est, un, elle est de... un peu large, cette question, surtout
oui.
dans le contexte où je vous la pose. On évoque souvent une jeunesse française des plus anxieuses, des plus pessimistes. Est-ce que c'est ce type d'information, est-ce que elle réveille quelque chose?
Alors, ce qui est certain, c'est que nous sommes parmi les premiers, voire le premier consommateur d'anxiolytiques.
Oui.
Et à la limite, on peut considérer aussi que certains alcools peuvent avoir une fonction d'anxiolytique. Mais cela dit, dans la réalité, cette fonction s'arrête après le premier verre.
Mmh. Ce qui traduit quand même quelque chose, quand même, que nous soyons les premiers consommateurs d'anxiolytiques.
Alors ça traduit aussi une accessibilité aux soins qui est certainement plus facile que dans d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'on doit relativiser cette information.
Oui, on doit relativiser, parce que c'est vrai que beaucoup de vos confrères généralistes, en tout cas, bon, ça n'est pas une accusation du tout, hein, mais c'est vrai que dès qu'on a une petite anxiété, un petit problème, hop, bim, on va vite fait faire une ordonnance et puis se retrouver à consommer des anxiolytiques. Et ça n'est pas toujours le premier remède, bien évidemment, à prendre, parce que les anxiolytiques sont dangereux, puisqu'il y a une addiction. Vous me confirmez bien cela ?
Alors, il y a un risque d'addiction et de dépendance. Mmh. Ça, c'est certain. C'est pour ça qu'on essaye de dire que, bon, pour une anxiété de courte durée, je pense qu'un anxiolytique peut apporter une solution. Oui. Si on est dans un TAC, on est dans une pathologie qui va être plus structurée. Et donc là, effectivement, c'est des antidépresseurs qui apporteront certainement la meilleure solution. Mmh. Et la psychothérapie, bien sûr. Mmh.
Vous restez avec nous en ligne, Jean-Luc Duché. Je rappelle que vous êtes psychiatre et auteur de l'ouvrage « Vaincre son anxiété par soi-même ». Dans quelques instants, nous accueillerons Sandra, qui souffre d'agoraphobie.
Phobie.
Phobie. Voilà, merci Ombline.
D'agoraphobie. Et il y a Béa, Olivier, qui nous écrit sur Facebook à cette question « Vaincre l'anxiété ». La respiration profonde, le médecin le disait d'ailleurs, la respiration profonde et la réflexion personnelle aident, mais comprendre pourquoi exactement on est anxieux doit être un grand pas pour vaincre cette anxiété.
Europe 1.
Alors comment vous débarrasser de votre anxiété qui vous gâche la vie ? Quelles sont vos clés ? N'hésitez pas à nous le dire aussi au 3921. Vous pouvez nous écrire Facebook donc, et puis Twitter avec le hashtag Europe 1. Cette inquiétude omniprésente qui s'accompagne d'une tension nerveuse et physique. Vous êtes anxieux tous les jours, quoi qu'il se passe, ça gâche votre vie. Vous êtes atteint d'un trouble de l'anxiété généralisée et vous êtes avec Olivier Delacroix, 3921, pour témoigner.
Et nous sommes maintenant avec Sandra sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Relativement bien.
Relativement
pour le moment.
Bien. Pour le moment, pourquoi ?
Relativement bien pour le moment. Alors pourquoi ? Parce que j'ai décidé, on m'a diagnostiqué un trouble d'anxiété généralisé il y a peu, et donc j'ai décidé de reprendre les choses en main et d'aller consulter.
Oui.
Donc là, je suis en psychothérapie, une psychothérapie qui est basée sur l'hypnose, des exercices de respiration, et disons que ça m'aide à un grand secours. Ça m'aide à un grand secours.
J'ai oublié de vous demander votre âge.
Je vous en prie, j'ai 40 ans.
Vous avez 40 ans. Ça a une importance parce que il y a une vingtaine d'années, donc, vous êtes devenu agoraphobe.
Tout à fait.
Et ça s'est transformé en phobie sociale, en fait.
Tout à fait.
Est-ce que ça s'est transformé progressivement en phobie sociale lorsque vous évoquez cet état d'anxiété générale qui vient de vous être diagnostiqué ? Est-ce que...
Oui.
Quels sont les symptômes qui aboutissent à ce diagnostic ?
Alors donc moi, vers l'âge de 17 ans, on m'a diagnostiqué une agoraphobie qui s'est très très vite donc transformée en phobie sociale, où j'avais énormément d'anxiété, des crises de panique.
Ouais.
Donc il était impossible pour moi, en ce temps-là, de sortir de chez moi sans avoir des tremblements, des rougeurs ou des pâleurs dans le visage. De la névralgie intercostale, comme on dit, c'est-à-dire les nerfs qui vous prennent au niveau du cœur, et cette espèce d'étouffement, des vertiges, et parfois même jusqu'à tomber dans les pommes, si je puis dire.
Mmh.
Donc yes. Ça, ce sont les principaux, je dirais, ce qu'on ressent lors d'une grosse, grosse attaque de panique.
Mmh. Donc vous avez consulté et...
J'ai consulté dans le passé.
Que vous a-t-on dit à l'époque ? On vous a parlé de crise de panique ? On vous a parlé de quoi ?
Alors, on m'a parlé de crise de panique et on m'a donné un anxiolytique.
Ouais.
On m'a donné un anxiolytique que j'ai pris pendant plus de 10 ans, qui, je pense, a été une béquille, mais qui a plus couvert la chose que guéri. Je suis passée par de la médecine traditionnelle et non traditionnelle.
Ouais.
Je veux dire par là que j'ai fait un peu d'hypnose, j'ai fait un peu d'acupuncture. À côté de ça, j'ai vu des spécialistes, psychiatres, psychothérapeutes. Et puis les choses ont fait que petit à petit, ça s'est tassé. Malheureusement, avec les coûts de la vie et une perte d'emploi future, pour dans 6 mois-là, j'ai de l'anxiété qui revient grandement.
Qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien dans... vous avez évoqué les médecines naturelles, hein, l'acupuncture, l'hypnose. Est-ce que vous avez senti que ça vous faisait du bien, ou est-ce que la médecine traditionnelle vous a plus sorti Vous parliez de béquilles tout à l'heure.
Ouais, bah, je vous avoue que l'anxiolytique m'a beaucoup aidée.
Oui.
L'acupuncture est quelque chose qui chez nous n'est pas remboursé malheureusement et assez peu reconnu.
Mmh. Et qui est pourtant très efficace.
Voilà, qui détend pas mal, mais le problème d'une anxiété généralisée, c'est que c'est au quotidien chronique et constant.
Oui.
Donc ça va avec des problèmes de sommeil et autres, et donc on ne peut pas faire des séances tous les jours.
Mmh.
D'où le fait de prendre un anxiolytique tous les jours qui va pallier à ce gros problème de stress avant d'aller travailler ou avant d'aller se coucher, par exemple.
Vous évoquez cet état donc d'anxiété quotidienne. Est-ce qu'il y a... dans la journée, à un moment précis, quelque chose qui provoque ces angoisses chez vous ?
Non, ça peut venir... En général, c'est quand j'ai des imprévus. Quand j'ai des imprévus ou quelque chose qui capote dans ma journée où ça devait se passer d'une certaine manière, j'ai un stress qui est naturel, comme chez tout le monde qui arrive,
oui.
Mais moi qui se démultiplie complètement.
Mmh.
Et donc à ce moment-là, je peux avoir une crise d'angoisse à ce moment-là. Mais sinon, je dois dire que l'anxiété est constante au quotidien.
Mmh.
Elle est devenue malheureusement depuis 3 mois constante au quotidien. Mmh.
Vous ne savez pas véritablement d'où ça vient ?
Là exactement non, parce que la psychothérapie je l'ai commencé récemment.
Oui.
Et puis je pense personnellement que c'est pas parce qu'on sait d'où vient ce problème que l'on en guérit, ou en tout cas on s'expose à quelque chose de plus calme dans la vie, mais non, je pense que parfois ça peut être un trop-plein de la vie ou quelques coups durs aussi.
Mmh.
J'ai eu pas mal de choses difficiles dans les dernières années de ma vie. Et je pense que ça a pu contribuer.
Mmh. Sandra, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler justement de ce quotidien et de ces échéances justement professionnelles qui vous attendent dans quelques mois. Et donc, continuer à parler de votre histoire.
Et il y a Lolita qui nous écrit sur Facebook, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, qui nous dit « Je suis toujours à 200%, ça me fatigue, je m'énerve facilement et j'angoisse. » Pour le moindre imprévu, mon seul remède, huile essentielle de camomille le soir pour dormir profondément.
Europe 1.
Nous parlons de ce trouble de l'anxiété généralisée, une inquiétude omniprésente, incontrôlable, qui régit une partie de votre vie, de votre quotidien. Alors, comment vaincre votre anxiété ? Vous échangez avec Olivier Delacroix et pour cela, vous composez le 39-21 tout de suite. Vous êtes avec Olivier Delacroix et pour venir nous raconter comment vous arrivez à vivre avec un trouble de l'anxiété généralisée, vous composez le 39-21, des angoisses qui handicapent votre quotidien. Comment essayez-vous de les combattre ?
Et nous étions et nous sommes toujours en ligne avec Sandra qui nous expliquait avoir eu cet état d'anxiété générale très tôt, hein, dès ses 20 ans, et notamment de l'agoraphobie. Justement, je me retourne vers vous, Jean-Luc Duchet. Je rappelle que vous êtes psychiatre et auteur de l'ouvrage « Vaincre son anxiété par soi-même ». À l'écoute du témoignage de Sandra, comment améliorer le quotidien de Sandra ?
Alors, j'allais dire, l'histoire de Sandra est tout à fait intéressante parce que finalement, elle nous présente plusieurs tableaux d'anxiété qui ne sont pas du tout les mêmes.
Non.
Elle parle effectivement de TAG actuellement, de troubles d'anxiété généralisée, mais elle décrit aussi des attaques de panique, hein, avec ce tremblement, pâleur, étouffement, vertige, jusqu'à tomber dans les pommes, dit-elle.
Oui.
Et elle parle aussi d'agoraphobie, c'est-à-dire une difficulté souvent à sortir, à aller dehors, qui va être alimentée une fois sur deux, j'allais dire, par des attaques de panique. C'est-à-dire que les gens ne sortent pas parce qu'ils ont peur de faire des attaques de panique.
Mmh.
Et plus ils se protègent, ben, plus ils vont limiter leur périmètre de sécurité, entre guillemets,
mmh.
et finalement, ils arriveront à ne plus sortir du tout.
Mmh.
Donc, elle a parlé d'un trouble anxiété généralisée, d'un trouble panique, hein, en rappelant bien que ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, il faut savoir qu'ils font des attaques de panique. Il faut savoir que faire des attaques de panique n'est pas quelque chose de grave. Mm-hmm. 30% de la population fait des attaques de panique.
Oui.
Mais seulement 1% s'en inquiète. Les autres 29%, finalement, bah, se disent voilà, j'ai fait une crise d'angoisse forte et ils ne se font pas du souci. Et
alors là, je vous arrête, docteur, parce que vous pourriez donner un conseil important. Parce que j'ai moi-même fait une crise de panique un jour et je pense que j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Mais ce jour-là, l'environnement, peut-être le contexte, a fait que je me suis beaucoup plus. Arrêté sur cette crise et que j'ai focalisé dessus et qu'elle est devenue beaucoup plus grave et importante.
Voilà, alors c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement on peut en faire plusieurs et puis à un moment il y en a une qui dans un contexte particulier va nous inquiéter davantage. Souvent derrière on va retrouver la peur de mourir. Hein, ça va être des symptômes particuliers. Mmh. Voilà. Et il faut savoir que jamais personne n'est mort d'une attaque de panique. Donc déjà c'est très important parce que si on sait ça... On s'en inquiète moins. Parce que le problème de du trouble panique, c'est en fait, c'est pas de faire des attaques de panique, c'est d'avoir peur d'en refaire. Et ça modifie à partir de ce moment-là tout un comportement, toute la vie, parce qu'on vit dans la panique, d'en refaire. Mm-hmm. Peur d'avoir peur.
Mm-hmm. Alors Sandra, vous évoquez une échéance professionnelle qui, dans quelques mois, hein, si j'ai bien compris, allait être importante puisque... Si j'ai bien compris, vous allez interrompre votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui crée déjà, par avance, une anxiété.
Voilà, moi je fais de l'anxiété anticipée. Et donc, ça va faire 3 mois que j'anticipe ce moment. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça. Mmh. Et mon anxiété est complètement surdéveloppée. Oui.
Mmh. Alors, peut-être que le docteur Jean-Luc Duché pourrait vous donner... quelques conseils par rapport à ça, parce que beaucoup souffrent par avance hein, d'une épreuve comme celle-ci qui va arriver et sur laquelle on produit déjà de l'anxiété par avance.
J'allais dire c'est un petit peu logique puisque quelque part il va y avoir un changement de vie, donc on est dans l'anticipation, dans le questionnement de savoir comment on va se débrouiller demain face à la situation nouvelle et d'un point de vue économique, financier et puis peut-être d'autres événements associés. Mais le problème c'est que de se faire du souci n'est pas forcément utile ni efficace. Donc ce qu'il faut essayer de faire c'est de vivre au jour le jour, de vivre dans le présent et de profiter des instants du présent en essayant de... Ce qui ne veut pas dire que quelque part, s'il y a un souci et quelque chose à faire, il faut peut-être avoir une action qui va faire bouger. Et ça peut être de rechercher un autre emploi, ça peut être de toute autre action positive. Mais lorsque l'anxiété prend le dessus, et de manière inutile, puisque simplement on va ressasser des choses, on va être mal, à ce moment-là, je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur ce qu'on vit et les moments agréables de l'instant présent. Mmh.
Juste pour aujourd'hui, souvent, on dit... Sandra, qu'est-ce qui peut vous soulager aujourd'hui dans cette anxiété ? Qu'est-ce qui peut...
ce qui me soulage malheureusement, c'est que je suis depuis 2 mois sous antidépresseurs plus des anxiolytiques.
Et il n'y a que ça qui vous soulage ?
C'est ce qui me sauve au quotidien pour le moment, oui.
Mais lorsque lorsque vous entendez le docteur Duché vous parler d'action, hein, de poser des actes hein, finalement, de chercher du travail, de faire avancer les choses et qui...
Je le comprends tout à fait. C'est des choses que j'ai déjà mis en place, mais par moment, au quotidien, l'anxiété prend le dessus. À un moment donné, l'anxiété prend le dessus. Je pense que c'est un mécanisme de pensée que j'ai maintenant depuis 2 mois.
Oui.
Et c'est un travail à faire sur soi, avant tout, pour essayer par après, de toute façon, d'arrêter ces antidépresseurs qui sont là, évidemment, pour m'aider pour quelques mois, mais qui ne sont pas des choses qu'on doit prendre sur des années.
Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite. Merci d'avoir témoigné aujourd'hui au 3921, Sandra. Et encore une fois, bon courage. Dans quelques instants, nous allons accueillir Véronique, qui, elle, est acrophobe.
Et il y a Marie-Lise et Peach qui nous écrivent sur Facebook. Elles ont chacune des astuces. Marie-Lise, c'est plus la musique zen. Peach, c'est la musique du groupe Nirvana à fond. Elle nous dit, j'ai découvert que c'était génial il y a quelques années pour se rebooster. Pourquoi pas le rock'n'roll ? Exactement. Et surtout, éviter, nous dit-elle, toutes les deux, Marie-Lise et Peach, les chaînes d'information continue.
Oui, c'est surtout en ce moment.
Oui. Europe 1. Lorsque les inquiétudes deviennent excessives sans motif réel, vous êtes atteint d'un trouble de l'anxiété généralisée. Vous témoignez au 3921. Vous retrouvez tout de suite Olivier Delacroix. Nous parlons de l'anxiété, comment la vaincre.
Et nous sommes maintenant avec Véronique. Bonjour Véronique, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci beaucoup d'accueillir.
Je vous en prie, quel âge avez-vous Véronique?
Je vais sur mes 50 ans.
D'accord. Alors, vous souffrez d'acrophobie.
Oui.
Et c'est assez spécifique. Et expliquez-moi ce que c'est exactement.
Alors, en fait, j'ai peur. En fait, c'est vraiment une peur. Ça me fait un état de panique, là aussi. Tout ce qui est gros pylônes. Les pylônes, je dis bien, les gros pylônes, rouge et blanc, haute tension. D'accord, les gros pylônes haute tension. Ouais. Je ne parle pas les petits qu'il y a sur les rues, hein, bien sûr. Mm-hmm. Je parle qu'on voit quand on arrive dans les entrées de grandes villes. Donc, ces grands pylônes, tout ce qui est éolienne.
Oui.
Donc, tout ce qui est en hauteur, mais aussi tout ce qui est en bas. C'est-à-dire, je fais aussi bien les vertiges, parce qu'on appelle ça, c'est une sorte de vertige, mais des hauteurs. Mais je fais aussi des vertiges en bas. Ça veut dire, j'ai les deux sortes de vertiges. Le problème, c'est quand j'arrive devant un grand pylône, alors que je ne m'y attends pas, je suis complètement figée. Ça veut dire, c'est comme des doigts qu'on ne peut plus sortir. Admettons, je tiens un volant, et bien mes doigts sont complètement crispés sur le volant. J'ai les jambes qui se figent, je tremble, et là, j'ai une grosse douleur à la poitrine. État de panique totale. Et ça me fait vraiment une peur bleue. Ça veut dire que j'ai l'impression que les poteaux, alors c'est une impression, c'est une image, bien sûr, que je donne, c'est comme s'ils allaient me manger, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que ça. Il y a tout qui devient, ça devient comme un vertige. Quoi. C'est vraiment un vertige.
Ça vous a pris quand, en fait, cela ?
Il y a des années. Ça fait des années que j'ai ça. J'ai essayé de m'en débarrasser, j'y arrive pas. Alors, petit à petit, alors, il y a des pylônes, là, la ville où j'habite sur Bordeaux, il y en a, mais je me suis habituée. Ça veut dire qu'il y en a, bon, je passe à côté, ça ne me fait rien. Mm-hmm. Mais dès que je vais dans un endroit que je ne connais pas, et quand on va sur Paris, ou par exemple, ils nous ont mis des éoliennes alors que ça n'existait pas. J'étais obligée de m'arrêter figée au milieu de l'autoroute, ça veut mettre sur le côté, et dire à mon mari, prends le volant, je ne peux plus. Et je tremble, je pleure, mais c'est horrible. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas prendre des antidépresseurs ou des calmants parce que je fais l'effet contraire, la benzodiazépine me font effet contraire. Donc, je ne peux pas prendre de calmants. Donc, je suis obligée de respirer, d'apprendre moi-même à être face à ça, qui est pour moi très, très, très dur à vivre parce que j'ai une profession qui me permet d'aller dans toutes les villes. Il y a des villes que j'ai rayées de la carte. Ça veut dire que sur une carte, je vais pouvoir aller à peine trois quarts d'une grande ville parce que les autres villes, je ne pourrais pas y aller. Et en plus de ça, sur l'autoroute, du coup, quand je vais sur une autoroute, mais là, c'est pareil, je ne peux pas rouler toute seule très longtemps si je vois qu'il n'y a pas de sortie, parce que si je ne vois pas qu'il y a de sortie, et bien là, je vais paniquer. Je vais en sorte aussi, comme la demoiselle précédemment, de l'agoraphobie. Parce qu'automatiquement, voilà quoi.
J'ai une question à vous poser par rapport à cela, donc les pylônes, les éoliennes, moi, je connais quelqu'un qui... par exemple, a beaucoup de mal à traverser des ponts. Vous voyez, est-ce que vous avez ça aussi ou les ponts?
Ah,
les ponts aussi.
Tout à fait.
D'accord.
Ouais, ça veut dire que quand j'arrive sur un pont, bon, le pont d'Aquitaine, je me suis habituée, mais il ne faut pas me laisser au-dessus du pont comme ça figé, parce que là, je veux dire, ça y est. Ça va zigzaguer dans tous les sens. Je sais que le pont de Millau, pour mettre une petite parenthèse, je crois que jamais de ma vie j'irai, quoi. Ça,
ah oui,
c'est clair,
d'accord.
Ça sera jamais possible. Jamais. Alors, je sais pas, alors j'y vais, il faut m'endormir avant de passer par-dessus, quoi.
Alors Véronique, on va se retourner vers Jean-Luc Duché pour que justement il vous donne peut-être deux, trois conseils pour calmer ces anxiétés et puis peut-être expliquer d'où viennent ces anxiétés parce que finalement ces pylônes ne bougent pas, ils sont souvent à des centaines de mètres de vous, les éoliennes pareil, et pourtant il y a cette anxiété. Ça vient d'où ça, docteur ?
Alors, quand on écoute le récit de cette dame, de Véronique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ces pylônes qui sont source d'angoisse, puisque quelque part vous avez posé la question par rapport au pont, et on voit bien que le problème existe à ce niveau-là aussi. Et ce qu'elle décrit elle-même, elle parlait à un moment d'agoraphobie. Donc on est peut-être plus dans un contexte d'agoraphobie. Avec des attaques de panique, hein, ce qu'elle décrit aussi tout à fait. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle a l'habitude d'essayer de respirer. Et c'est vrai qu'une bonne respiration, quelqu'un qui maîtrise la respiration abdominale, va pouvoir contrôler son anxiété de manière beaucoup plus importante dans les attaques de panique. Cela dit, pour maîtriser, il faut s'entraîner. Et moi, ce que je conseille, c'est aux patients de s'entraîner, et j'allais dire toutes les heures, à en faire 3-4 respirations abdominales pour la maîtriser quand on est en situation d'angoisse.
In situ, ces respirations?
Alors non, on les fait n'importe où. On est un feu rouge, on est en plus, quelque part, ça nous déstresse, ça nous apporte une oxygénation du cerveau, ça a plein de vertus positives. Est-ce qu'on a bien compris les orientaux, puisque à travers le yoga et toutes les techniques orientales de méditation, on retrouve cette respiration abdominale. Donc il faut le faire in situ, comme vous dites, quand on est en situation, mais pour la maîtriser, pour y arriver quand on est in situ, il faut s'être entraîné auparavant.
Merci beaucoup en tout cas docteur Jean-Luc Duchet pour vos éclairages. Merci aussi à Véronique, merci à Sandra, à Audrey et à Bertil de nous avoir appelés et de nous avoir raconté leur histoire. C'est la fin de cette émission. Un état anxieux passager est commun, mais si votre anxiété est chronique, généralisée comme Sandra que nous avons eu en ligne, il existe aujourd'hui différents traitements pour la vaincre, la thérapie comportementale, l'hypnose, la sophrologie, les traitements médicamenteux. Mais comme le docteur Jean-Luc Duchet venait de le dire, le yoga aujourd'hui permet de mieux connaître son corps, de mieux connaître son intérieur et surtout d'apprendre toute une palette de techniques de respiration qui nous aident à nous calmer. Et voilà, et de plus en plus, vous pouvez trouver dans vos quartiers des professeurs de yoga. Il y en a partout et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on peut pratiquer facilement et ça aide vraiment pour ces états d'anxiété. N'hésitez pas à consulter en tout cas pour vous faire conseiller et savoir quel traitement serait le plus adapté à vous.
Et vous pouvez continuer aussi à en discuter sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, sur Instagram Olivier Delacroix officiel, et puis vous retrouvez la libre antenne d'Europe 1 le soir, vous échangez avec Sophie Pétard si vous le souhaitez entre 22h30 et 1h du matin.
Europe 1.
N'hésitez pas à vous inscrire sur cet Instagram Olivier Delacroix officiel, car on vous pose des questions souvent, on vous pose des questions.
Et il y a
tous
les sujets également.
Tous les sujets, donc voilà. Demain, nous parlerons ensemble de l'engagement pour les autres, que l'on soit bénévole dans une association, que l'on fasse un métier au service des autres, est-ce une vocation? Si vous avez créé votre propre association ou si vous êtes bénévole, si vous faites un métier au service des autres, si vous avez passé votre vie au service des autres, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire.
À demain.
À demain, Omblin, j'étais ravi de passer cette heure à vos côtés, 15h. Je vous laisse maintenant avec Laurence Boccolini.